France Culture.
À voix nue, Géraldine Mosna-Savoie, cette semaine avec...
André Comte-Sponville, philosophe.
Quatrième épisode, philosophie du gai désespoir. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
1999, le 18 octobre précisément, à Bouguenay, en Loire-Atlantique, vous tenez une conférence qui paraîtra en 2000 sous le titre « Le bonheur ». Désespérément, dans ce texte de 45 pages se trouve condensée votre philosophie, le gai désespoir. Alors on va revenir sur ce gai désespoir, sur ce que contient cette philosophie. Mais d'abord, j'ai remarqué, vous parliez de votre philosophie. Vous n'hésitez pas à dire que vous avez une philosophie. Comment avez-vous su que vous en aviez une, la vôtre, et qu'elle ne ressemblait à aucune autre ?
C'est une bonne question. Et donc, quand j'ai commencé à écrire, donc les années qui suivaient la réalisation, constatant que ce que je faisais en littérature était d'une infinie tristesse et que ce que je faisais en philosophie était plutôt gai et tonique, j'ai choisi plutôt la philosophie et je ne l'ai jamais regretté. Et donc j'ai commencé à écrire de la philosophie. Mais comme je n'avais pas encore deux philosophies, ça a pris la forme d'aphorismes, des petits textes très brefs, quelques lignes, quelques pages au maximum, un peu inspirés quant à la forme par Nietzsche, quant au contenu davantage par Épicure, Spinoza, Marx, Freud, etc., qui étaient des idées que j'avais ou qui me venaient d'un début d'élaboration de philosophie. Mettant ces aphorismes bout à bout, j'en ai fait un livre qui sera publié bien plus tard, qui s'appelle « Du corps », que j'avais proposé aux éditeurs donc dans les années, la fin des années 70. Tous les éditeurs l'avaient refusé, mais l'un d'entre eux, Roland Jacquard, au PUF, m'avait dit « Écoutez, faites-moi un livre continu, un essai, non plus un recueil d'aphorismes, et je le publierai dans ma collection au PUF. » Et ça a donné le traité du désespoir et de la bêtitude.
Donc en 84.
C'est 84, et donc oui, 4-5 ans plus tard, le temps de mettre tout ça en forme, sous la forme non plus d'un recueil d'aphorismes, mais d'un essai continu. Et c'est en écrivant peu à peu ces aphorismes que j'ai bien vu que, bien sûr, ce que je disais rejoignait sur tel ou tel point tel ou tel philosophe. Mais en même temps, aucun philosophe n'avait ma philosophie, que donc je n'avais pas la philosophie d'un autre, mais j'étais en train d'essayer de chercher la mienne. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Alors, je prétends pas une absolue originalité, d'ailleurs personne n'est totalement original en philosophie. Peut-être pour présenter ma philosophie de la façon la plus générale, on peut dire que je suis un philosophe matérialiste, rationaliste et humaniste. Et je préciserai même en disant, je suis matérialiste au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza, et humaniste au même sens que Montaigne. Qu'est-ce que ça veut dire que matérialiste au même sens qu'Épicure ? Ça veut dire que c'est matérialiste au sens philosophique et pas au sens trivial. Au sens trivial, hein, quelqu'un de matérialiste, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéaux, qui ne vit que pour les plaisirs matériels, la bouffe, le sexe, le confort, que sais-je. Je n'ai rien contre ces plaisirs, bien au contraire, mais enfin, ça ne fait pas une philosophie. Non, matérialiste, au sens philosophique du terme, c'est penser que tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel. Et qu'il n'existe donc pas d'idées séparées à la façon du monde intelligible de Platon, qu'il n'existe pas non plus de dieu immatériel, comme chez Aristote, ou dans les différents monothéismes. Et spécialement, c'est aussi penser que ce qui pense en moi, ce n'est pas une âme ou un esprit immatériel, mais c'est bien sûr mon cerveau, qui est un organe aussi matériel, plus complexe, mais aussi matériel que n'importe quel organe. Ce qui a des conséquences existentielles assez lourdes, parce que si je suis mon cerveau, la mort de mon cerveau sera ma disparition pure et simple, et c'est en quoi il y a, pour le matérialiste, quelque chose de désespérant, on y reviendra, dans la condition humaine. Donc, être matérialiste, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel. Être rationaliste, au même sens que Spinoza, c'est penser qu'il n'existe rien d'irrationnel. Autrement dit, que tout est rationnel, c'est-à-dire que la raison peut, en droit, en théorie, tout expliquer. En pratique, en fait, bien sûr, on n'arrivera jamais à tout expliquer, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'irrationnel en soi. Ça veut dire que l'irrationnel est un ensemble vide, l'irrationnel n'existe pas, ce qui suffit à le distinguer du déraisonnable, qui n'existe que trop. Le déraisonnable, c'est ce que la raison ne peut pas approuver, l'irrationnel, c'est ce que la raison ne pourra jamais expliquer. Alors bien sûr qu'il y a du déraisonnable. Prenez l'exemple de la folie. Si quelqu'un se prend pour Napoléon, ce n'est pas raisonnable, ce qu'on appelle un fou. Mais la folie, elle est rationnelle. La preuve, c'est que la psychiatrie peut expliquer la folie. Si la folie était irrationnelle, la psychiatrie serait impossible. Donc, je suis matérialiste, je pense qu'il n'existe rien d'immatériel. Je suis rationaliste, je pense qu'il n'existe rien d'irrationnel.
Juste une question sur l'irrationnel et les miracles, par exemple.
Ben, ça veut dire que si je suis rationaliste, c'est que je ne crois en aucun miracle. J'avoue d'ailleurs que j'attache peu d'importance au
miracle. À la question du miracle?
Non, la question est intéressante intellectuellement, mais un jour, mon ami, mon maître et ami Marcel Conche m'avait dit quand même « votre Jésus », parce que Marcel me reprochait toujours d'accorder trop d'importance à la tradition évangélique. Donc Marcel Conche me disait « quand même votre Jésus ». Pour en être réduit à marcher sur les eaux, fallait vraiment qu'il n'ait que de bien piètres arguments. Je trouve que la remarque de Marcel était parfaitement pertinente. Donc, je ne crois évidemment en aucun miracle. Alors maintenant, troisièmement, je suis humaniste au même sens que Montaigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon humanisme ne consiste pas du tout à célébrer la grandeur de l'homme. À quoi je ne crois aucunement. Parfois, les gens me disent, vous ne croyez, notamment les croyants ou parfois les francs-maçons, me disent « Bon, vous ne croyez pas en Dieu, d'accord, mais vous croyez en l'homme. » Ça, c'est vraiment important. Je leur réponds « Mais non, je ne crois pas en l'homme. » D'abord parce qu'il n'y a aucune raison de croire en l'existence de quelque chose dont l'existence ne fait pas de doute. Bien sûr que l'humanité existe. Je ne crois pas plus en l'homme en ce sens que je ne crois en cette tasse de café, si vous voulez. Mais si on entend par croire en l'homme, croire en la grandeur de l'homme, alors j'y crois encore moins. Parce que l'expérience nous apprend depuis très longtemps que l'humanité est capable du pire, plus souvent que du meilleur, et du médiocre, heureusement, plus souvent que du pire. Et donc, être humaniste, au sens de Montaigne, ce n'est pas célébrer la grandeur de l'homme, ça n'est pas faire de l'homme un dieu, comme fait mon ami Luc Ferry dans son livre « L'homme-dieu ou le sens de la vie », pas du tout. Être humaniste, au sens de Montaigne, ce n'est pas célébrer la grandeur de l'homme, c'est nous pardonner mutuellement nos petitesses, nos insuffisances. C'est ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde. Et une fois qu'on accepte le peu que nous sommes, on peut envisager de progresser un peu. Parce qu'évidemment, Montaigne a raison, c'est en ce sens aussi qu'il est humaniste. Quand Montaigne écrit, il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et d'humain. Pour moi, l'humanisme, ça n'est pas une religion, c'est une morale. Il ne s'agit pas de célébrer la grandeur de l'homme, il s'agit d'essayer de faire bien l'homme et d'humain.
Mais ceci, rationaliste, humaniste, matérialiste, vous vous êtes défini comme ça à quel moment ?
En ça, très tôt, d'ailleurs, dès mes recueils d'aphorismes, ces notions apparaissaient, surtout le matérialisme et le rationalisme. L'humanisme, au départ, j'étais un peu plus réticent parce que j'étais très marqué par l'anti-humanisme théorique de mon autre maître et ami Louis Althusser. Et au fond, ce qui m'a réconcilié avec l'humanisme, c'est deux contemporains et deux amis, c'est mon ami Francis Wolff et mon ami, maintenant décédé, Svetan Todorov, qui tous les deux ont beaucoup travaillé sur cette notion d'humanisme. Et on m'a convaincu que j'avais tort de ne pas la reprendre à mon compte, qu'il y avait une dimension d'anti-humanisme théorique dans les sciences humaines. Mais ça ne dispensait pas les philosophes, eux, d'être humanistes. Autre chose qui m'a aussi conforté dans cet humanisme, c'est la lecture de Montaigne. Parce que dans mon parcours philosophique, l'étonnant, c'est que Montaigne est le dernier des grands philosophes, finalement, que j'ai lu. J'avais lu Épicure, Spinoza, Kant, Descartes, que sais-je, bien avant de lire Montaigne. Et disons que Montaigne, avec mes amis Wolff et Todorov, m'a réconcilié en effet avec l'humanisme, mais un humanisme particulier. Vous savez, Svetan Todorov a fait un très beau livre sur l'humanisme qu'il appelait « Le jardin imparfait ». C'est une référence à Montaigne. Montaigne écrit dans les essais « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle et encore plus de mon jardin imparfait. » Le jardin imparfait, c'est l'humanité, ou plutôt c'est soi-même comme être humain. Et donc être humaniste au sens de Montaigne, c'est s'accepter humain, c'est accepter ses petitesses en essayant malgré tout de progresser, en essayant de faire bien l'homme ou de faire l'homme ou la femme le mieux qu'on peut.
Dans cette histoire, quand est-ce qu'apparaît le terme, presque on pourrait dire l'appellation du gai désespoir? Une fois que vous avez écrit ces aphorismes, André Comte-Sponville, une fois qu'en fait ce positionnement apparaît assez clairement pour vous avec l'humanisme en dernier lieu, à quel moment vous vous dites là je suis en train de vraiment, ma philosophie aurait ce nom de gai désespoir?
Il y a deux choses, il y a d'abord la formule de réveil qui m'était venue un matin, la phrase de Spinoza, il n'y a pas d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir, et donc je me suis dit, ben voilà, si le sage, selon Spinoza, vit sans crainte, parce que la sagesse, c'est la sérénité. Si le sage est sans crainte, c'est donc qu'il est sans espoir. Et l'idée d'une sagesse désespérée, d'une sagesse du désespoir, m'a paru à la fois étrange et belle. Dans mon recueil d'aphorismes, ce thème de gai désespoir, à ma connaissance, n'apparaît pas. Mais quand j'ai repris tout ce dossier pour en faire un essai continu, je suis parti d'une remarque de Courbet, citée par Aragon, où Courbet expliquait qu'enfin un tableau, il faut commencer par le plus sombre, le plus noir, et peu à peu faire luire l'éclair.
Ce sont les premières lignes du mythe d'Icare.
Voilà, et donc j'ai commencé le mythe d'Icare en citant cette phrase de Courbet, et tu dis en substance, je cite là de mémoire et mal, mais c'est pareil en philosophie, il faut commencer par le plus sombre, par le plus noir, il faut commencer par le désespoir. Non, pas du tout pour m'y enfermer, je dirais volontiers du désespoir, que ce que Camus a souvent dit de l'absurde, c'est pas un point d'arrivée, il s'agit pas de célébrer le désespoir ou encore moins la désespérance, c'est un point de départ. Dès lors que, étant matérialiste et rationaliste, et tout en étant par ailleurs humaniste, je prenais conscience qu'il y avait quelque chose de désespérant dans la condition humaine, il fallait bien partir de là comme une espèce de socle de granit pour essayer de voir quel type de philosophie et quel type d'existence humaine je pouvais bâtir à partir de ce constat en apparence désespérant et qu'il est en effet sans être forcément attristant. Bref, mon évolution, pour le dire autrement, c'est que dès lors que j'ai perdu la foi, donc là beaucoup plus tôt, vers 17-18 ans, l'ancien catholique que j'étais s'est dit, ben voilà, Pascal a raison, Kant a raison, Kierkegaard a raison, trois auteurs chrétiens, mais trois génies. Ils ont raison tous les trois de nous dire qu'un athée lucide et cohérent ne peut pas échapper à une part de désespoir. Ah oui, parce qu'on va mourir, s'il n'y a rien après la mort. Sauf que leur erreur, c'est d'avoir confondu ce désespoir avec le malheur. C'est pas du tout la même chose. De même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, et il s'en faut de beaucoup. Parce que tant qu'on espère le bonheur, bah c'est qu'on n'est pas heureux. Et une fois qu'on est heureux, mais il n'y a plus rien à espérer. De même que l'espoir n'est pas la même chose que le bonheur, le désespoir n'est pas la même chose que le malheur. Et d'autant plus que mon expérience m'a vite appris, le plus tragiquement, ça a été pendant la mort de notre fille, que mes moments de plus grand espoir, c'était quoi ? Mais comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, c'était mes moments de plus grande peur. On vous annonce que votre bébé est atteint d'une méningite foudroyante, qui risque de mourir dans les jours qui viennent. Évidemment que vous espérez follement qu'elle va guérir. Et de ma vie, je n'avais jamais rien espéré aussi fort, jamais. Et de ma vie, je n'avais jamais été aussi malheureux. Alors ça, c'est étonnant. Le moment de la plus forte espérance a été le moment de mon plus grand malheur. Et quand j'y réfléchis, après coup, je me dis, mais à l'inverse, mes moments les plus heureux, c'était quoi ? Une balade en Haute-Loire avec mon meilleur ami, où on était tellement bien qu'il n'y avait rien, plus rien à espérer. L'émotion quand on écoute un air de Mozart au concert. Mozart ne laisse rien à espérer. Vous savez, Paul Valéry a écrit quelque part « Le beau, c'est ce qui désespère ». Pas du tout parce que le beau serait forcément triste, hein. Valéry n'est pas Musset. Non, mais parce que le beau ne laisse rien à espérer. Eh bien, je vais vous dire, le vrai, c'est ce qui désespère. Je vous mets au défi d'espérer qu'on a pris la Bastille le 14 juillet 1789. Parce que vous savez que c'est vrai. Vous ne pouvez pas espérer que 2 et 2 font 4. Vous savez que c'est vrai. Vous ne pouvez pas espérer que nous sommes ensemble. Vous savez que c'est vrai. On espère que ce qu'on ignore. La vérité ne laisse rien à espérer. Le beau, c'est ce qui désespère. Le vrai, c'est ce qui désespère. Le bon, c'est ce qui désespère. Que voulez-vous espérer pendant l'orgasme ? Mais rien. Et surtout pas que ça continue. On sait bien que ça ne continuera pas. Le bien moral, c'est ce qui désespère. Parce que Kant écrit quelque part qu'une action n'est moralement bonne que si on le fait sans rien espérer pour cela. Si vous faites une bonne action dans l'espoir d'une récompense, ce n'est pas une bonne action morale. La bonne action morale, c'est faire le bien sans rien espérer pour cela. Et donc, vous voyez qu'au sommet de l'humanité, le beau, le vrai, le bien, le bon, les meilleurs moments sont ceux où il n'y a plus rien à espérer. Et donc, où il n'y a plus rien à craindre, puisqu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, tout cela m'a amené à penser une certaine sagesse que j'ai pensé beaucoup dans les termes de Spinoza, parce qu'en effet, alors Spinoza ne prend pas ce mot de désespoir, mais en effet, il s'agit pour Spinoza, c'est le dit expressément, de se libérer le plus qu'on peut de l'espoir et de la crainte. Et donc une sagesse du gai désespoir, ça serait une sagesse qui ferait que nous serions libérés de toute crainte, libérés de tout espoir, et on pourrait enfin aimer la vie telle qu'elle est et agir au présent.
C'est ça que j'aime dans votre philosophie, André Comte-Sponville, c'est que c'est une philosophie qui est humble. De dire « le bonheur n'espère rien », c'est non seulement une redéfinition du bonheur, c'est-à-dire dire « voilà, on n'attend pas la félicité, on n'attend pas la béatitude extrême, on ne veut pas être tout le temps heureux, en fait, c'est une manière d'être heureux à travers des plaisirs, à travers certains moments, à travers de la joie et pas forcément à travers la félicité comme vous l'avez dit, mais c'est aussi une manière de critiquer l'espoir. Or, les philosophes critiquent très peu l'espoir. Vous, là-dessus, vous n'hésitez pas. Ces deux choses-là me plaisent. C'est un bonheur simple et c'est aussi une critique de l'espoir qui, à mes yeux, parfois est une vertu ou en tout cas, je ne sais pas, un état, une qualité un peu vaine.
Oui, la plupart des philosophes sont plutôt pour l'espoir, souvent sans enthousiasme d'ailleurs, mais par contre, que l'espoir soit une passion et pas une vertu, les stoïciens n'ont cessé de le dire. Spinoza n'a cessé de le dire. Donc je ne suis pas le premier ni le seul à dire ça, mais c'est vrai que ça singularise un petit peu ma philosophie. Mais je dirais que cette philosophie, la mienne, est d'autant plus humble que cette sagesse du gai désespoir, pour humble qu'elle soit, elle est inaccessible. Et c'est ce que j'ai mis quelques années à comprendre, et la Montaigne m'a accompagné dans ce chemin qui consistait à mettre un petit peu Épicure et Spinoza à distance, c'est que personne ne peut cesser d'espérer, parce que personne ne peut cesser d'avoir peur, c'est aussi bête que ça. Et la formule de Spinoza qui dit « il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir », j'en concluais au début, il y a 30 ou 40 ans, il faut donc rien espérer, comme ça tu auras moins peur. 40 ans plus tard, je me dis, comme tu auras toujours peur de quelque chose, il y aura toujours quelque chose à espérer. Parce que j'ai fait des enfants, là aussi. En plus, quand vous perdez le premier, vous êtes d'autant plus
dans la peur
pour les autres. Mais ça me fait penser à l'une des premières conférences que j'ai faites, donc après la publication du Mythe d'Icare, donc dans cette période très spinoziste, très épicurienne, j'avais une conception humble en quelque chose, des raisons de la sagesse, mais pas aussi humble qu'elle semblait l'être. Donc je fais ma conférence sur le bonheur, peut-être la même que le bonheur désespérément, sous une autre forme, mais en gros la même. Et dans le débat, il y a une femme, une quarantaine d'années, donc beaucoup plus jeune que je ne suis maintenant, mais un peu plus vieille que je l'étais à l'époque. Cette femme me dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé votre conférence. Ce que vous dites sur la sagesse, la sérénité, le désespoir, tout ça, c'est formidable. Il y a juste un problème, me dit-elle. Quand on a des enfants, ça ne marche pas. Je lui dis, chère madame, je vous dirais deux choses. Un, vous avez raison, j'étais déjà père de famille. Deux, ce n'est pas une raison pour ne pas faire d'enfants. Autrement dit, la vie réelle, notamment les enfants que nous faisons, l'amour que nous avons pour eux, est bien plus importante que la sagesse, qui au fond n'est qu'un idéal. Et le matérialiste que je suis est bien placé pour savoir qu'aucun idéal n'existe. Autrement dit, la sagesse n'existe pas, ce n'est qu'un idéal, aucun idéal n'existe. Il n'y a que des sages, plus ou moins sages. Et en vérité, aucun d'entre eux ne croit vraiment en la sagesse comme sagesse absolue. Et c'est sur ce chemin de désillusion. Alors, je l'avais un peu annoncé dès le tout début du Mythe d'Icare, ou dans la conclusion du Mythe d'Icare, je ne sais plus, je disais, il s'agit que le désespoir désespère aussi de lui-même.
Oui, qu'on n'espère pas d'être désespéré.
Ça veut dire que la philosophie échoue, y compris ma philosophie, mais sauf que Et c'est ça que j'appelle le tragique. Au fond, le tragique, c'est quoi? C'est que, comme disait Jean-Paul Sartre, l'histoire de toute vie est l'histoire d'un échec. Parce qu'on meurt, mais parce qu'on n'arrive jamais à faire exactement ce qu'on veut. Et la philosophie échoue aussi, mais ça tombe bien, parce que ce que j'aime, moi, c'est pas la victoire, c'est pas le succès, c'est la philosophie. Et donc, que la philosophie échoue aussi, ça n'est pas une raison pour cesser de philosopher, c'est une raison pour continuer toujours de philosopher, parce qu'on n'en a jamais fini.
Mais alors là, vous me surprenez, André Comte-Sponville, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à plus de 70 ans passés, vous vous dites « je n'étais pas assez humble dans ma philosophie, je croyais que le gai désespoir était une pratique, on pourrait dire, de philosophie quotidienne ». Or là, aujourd'hui, vous dites, non, c'est un idéal, jamais on ne l'atteindra.
Oui, autrement dit, j'ai passé 20 ans de ma vie philosophique à jouer Spinoza contre Blaise Pascal. Une fois, j'étais un journaliste, j'ai dit, ça fait 20 ans que je joue Spinoza contre Blaise Pascal, il me demande qui a gagné. J'ai répondu Montaigne. Parce que Montaigne leur donne tort aux deux. Montaigne donne tort à Blaise Pascal qui prétend qu'on ne peut jamais être heureux, qu'on est voué au malheur. C'est faux, constate Montaigne. Montaigne donne tort à Spinoza qui prétend qu'on peut se libérer de l'espoir et de la crainte, qu'on peut atteindre une parfaite sérénité. Montaigne n'y croit pas non plus. Vous savez, la sagesse d'Épicure, mais c'est vrai aussi de Spinoza, mais dans le grec d'Épicure, ça se dit ataraxia, absence de trouble. Et en effet, à la fin de la lettre à Ménécée, Épicure dit à son disciple, médite mes leçons jour et nuit et tu ne seras jamais troublé, car tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. Quand j'ai lu ça à 18 ans, ça m'a paru formidable. Ça m'est même un peu monté à la tête. Mais si tu disais maintenant à 73 ans, je ne suis jamais troublé, je vis comme un dieu parmi les hommes, vous diriez, Constantville a pété les plombs. Vous auriez raison. Oui. Or, cette sagesse d'Épicure, l'ataraxie, absence de trouble, j'en ai lu la récusation chez Montaigne en une phrase dont j'ai fait le titre d'un de mes livres. Montaigne écrit joliment « Ces choses tendres que la vie et aisées à troubler ». Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'un bois tendre, une pierre tendre. Autrement dit, ce que Montaigne, qui adore Épicure, dirait à Épicure, c'est « Mon cher Épicure, ton ataraxie, c'est formidable, c'est joli, ça fait rêver les jeunes gens. Mais en vérité, c'est du pipeau. » Parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et même chose chez Spinoza, la fin de l'éthique. Spinoza explique que le sage n'est jamais troublé, mais vit dans un perpétuel contentement. Montaigne lui répond, c'est du pipeau, mon cher Spinoza, parce que, je cite Montaigne, tant sage qu'il voudra, mais enfin c'est un homme. Qu'est-il plus caduc et plus de néant ? Autrement dit, Montaigne m'a rappelé à ma propre humanité, mais humaniste de la miséricorde, non pas la grandeur de l'homme, mais notre fragilité. Nous sommes tellement fragiles que même cette sagesse humble nous est inaccessible. On ne l'atteindra jamais tout à fait, mais malgré tout, on peut s'en approcher. Et au fond, c'est un peu la logique aussi de l'Ecclésiaste, qui est sans doute dans toute la Bible le livre qui me touche le plus. Vanité des vanités, tout est vanité, y compris la sagesse. Oui, mais vanité pour vanité, mieux vaut un peu plus de sagesse qu'un peu plus de folie. Autrement dit, la sagesse, ce n'est pas un état dans lequel on pourrait s'installer, c'est une visée pour le philosophe et la philosophie, comme disait Épicure, comme disait Wittgenstein, ce n'est pas une doctrine, c'est une activité, c'est une pratique. Il s'agit d'avancer, et en effet, sur ce chemin-là, on peut avancer vers un peu moins d'espérance, un peu moins de crainte, mais surtout un peu plus de connaissance, de lucidité, d'action, d'amour. Parce qu'au fond, il ne s'agit pas de ne rien espérer. Toutefois, les gens résument ma philosophie en disant « il ne faut rien espérer ». Mais essayez, ça ne marche jamais. Puisqu'il n'y a pas de peur sans espoir.
Mais on peut quand même, après vous avoir lu André Comte-Sponville, se dire « là, j'attends qu'il m'arrive ça » et renoncer en fait à ce type de, même si ça nous vient spontanément, faire un travail réflexif.
Ce que je dis, c'est qu'il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Il s'agit d'espérer un peu moins, oui, quand on peut, et donc de craindre un peu moins, mais surtout de connaître, d'agir et d'aimer un peu plus. Il ne s'agit pas de s'amputer de sa part d'espérance ou de sa part de crainte. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer. Il s'agit d'augmenter sa part de puissance, sa part de connaissance, sa part d'action, sa part d'amour.
Vous avez écrit, André Comte-Sponville, une trentaine d'ouvrages, fait des centaines de conférences. Vous distinguez dans votre écriture les études, les impromptus, les propos, ces différents types d'écrits que vous avez. Est-ce que aujourd'hui, écrire de la philosophie vous remplit encore de joie ou au contraire, voilà, le côté travail, le côté échec aussi de la philosophie peut vous dégoûter?
J'aime l'écriture. J'expliquais lors de notre première émission que, enfant, je me rêvais écrivain et qu'adulte, j'ai décidé d'être à la fois écrivain et philosophe. J'aime passionnément la philosophie et je prends un grand plaisir à écrire.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'écrire?
C'est le fait d'agir, c'est-à-dire que nous sommes nés pour agir, écrit Montaigne. Quand on n'agit pas, en gros, on s'emmerde, disons la chose clairement.
Ou on s'angoisse.
La grande formule de Blaise Pascal dans Les Pensées, hein, tout le malheur des hommes tient à une seule chose, qu'ils ne peuvent pas rester 24 heures dans une chambre sans rien faire. Parce que s'ils restent 24 heures dans une chambre, explique en substance Pascal, alors immanquablement arrive l'ennui, l'angoisse, le désespoir, le chagrin, le désespoir. Et Pascal y voit une condamnation de la condition humaine. Mais pas du tout. C'est une condamnation de l'oisiveté, de l'inactivité. Et Montaigne dirait à Pascal, mais mon cher Blaise, ne reste pas 24 heures dans ta chambre. Sors, va à la chasse, écris, travaille, va voir tes amis, amuse-toi. Voyez, nous sommes nés pour agir. Il se trouve que moi, l'action qui me plaît le plus, peut-être celle pour laquelle je suis le plus doué, c'est l'écriture. Vous savez, il y a cette grande phrase de Baudelaire dont il m'arrive de penser qu'elle m'a peut-être sauvé. Parce que elle, je l'ai lu dans ces années, juste après la grègue, qui est un petit peu difficile. Dans ses notes intimes, Baudelaire écrit exactement ceci. « Il faut travailler. Sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Voilà. » Il faut travailler, sinon par goût, du moins par désespoir. Tout compte fait, travailler est moins ennuyeux que s'amuser. Et c'est assez vrai, c'est-à-dire que si je passe une demi-journée à regarder la télé, je vais finir déprimé. Si je passe une demi-journée à écrire, je peux sortir quasiment exalté, tellement ça m'a fait plaisir, tellement ça m'a fait du bien. Voilà. Mais pour d'autres, ça sera faire du sport, faire de la politique, danser, faire des randonnées, que sais-je, vous voyez. Mais nous sommes nés pour agir, et il se trouve que l'action, sans doute, que je préfère, en tout cas celle que je peux faire seule, c'est d'écrire.
Et pourquoi continuez-vous à écrire encore aujourd'hui, malgré peut-être la dimension d'échec ? Qu'est-ce que vous avez encore à chercher ou à dire ?
Peut-être rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour la première fois de ma vie, c'est comme 73 ans, ça ne m'était jamais arrivé, enfin jamais depuis la fin de l'adolescence, pour la première fois de ma vie, je n'ai aucun livre en cours, ni même aucun livre en projet.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Que je trouve parfois délicieux, les bons jours, et un peu déstabilisant, les moins bons jours. Parce que c'est plus facile de le lever le matin quand on a un livre en cours que quand on ne sait pas encore ce qu'on va faire de sa journée. Mais sur le fond, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'en gros, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et quand je dis ça, parfois les gens dans le public ou mes amis s'inquiètent comme si j'étais déprimé, mais pas du tout. C'est une merveilleuse nouvelle. Imaginez qu'à 73 ans, j'ai le sentiment de ne pas avoir réussi à dire ce que je voulais dire. Alors là, ça serait vraiment un échec. Ça fait 50 ans que tu travailles, que tu publies, tu n'as même pas réussi à dire ce que tu voulais dire. Non, non. Moi, j'ai le sentiment que j'ai réussi à peu près à dire ce que je voulais dire, que je l'ai au total plutôt bien dit. En plus, je n'ai pas à me plaindre. En plus, j'ai eu du succès. Je suis très lu. Bon. Donc, je trouve que c'est bien. Alors, ça ne veut pas dire que je n'écrirai plus. Ce que j'ai annoncé au début de mon tout dernier livre, L'opportunité de vivre, sous-titré « Ultimes études », c'est que je ne ferai plus de ce que j'appelle des études. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai écrit beaucoup de livres, mais aussi beaucoup d'articles, notamment trois genres d'articles, des articles les plus brefs, publiés dans la presse et souvent à propos de l'actualité, j'appelle ça, comme Alain, des propos. Et puis, il y a des articles plus longs, plus littéraires, plus subjectifs, que j'appelle des impromptus, où le modèle, là, c'est plutôt Montaigne, finalement. Et puis, il y a des articles beaucoup plus long, plus aride, plus austère, plus technique, avec des tas de référents, de notes en bas de page, que j'appelle des études. Et c'est vrai que les études, je n'en ferai plus, parce que je trouve que j'ai beaucoup donné à l'histoire de la philosophie. Ça ne veut pas dire que je n'écrirai plus si j'ai quelque chose de nouveau à dire. Mais si c'est pour redire la même chose que j'ai déjà dit dans tel ou tel de mes livres passés, je ne vois pas l'utilité d'y revenir. D'autant plus que je trouve que la vie est quand même quelque chose de très agréable, la vie à deux spécialement, et ma femme et moi, on est très heureux ensemble. Et voilà, et donc je peux vivre sans écrire. Et ce dont j'étais incapable à 30 ou 40 ans, parce que là, immédiatement, l'angoisse me tombait dessus. Vous voyez, là, j'ai passé tout cet été sans écrire aucun livre. Alors, j'écris pas mal de mails, quelques articles, quelques entretiens par email, etc. Mais enfin, pas de livres. J'ai passé un très bel été. Je vous remercie.
Merci à vous, André Comte-Sponville. À demain pour la suite et la fin de ces entretiens.
À demain.
C'était À Voix Nue, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Patrick Muller, chargé de programme Daphné Abgral, une série de Géraldine Mosna-Savoie disponible sur franceculture.fr et l'application Radio France.